preuve?
Ben, en fait, nous, c'est au sein d'un même questionnaire, les jeunes qui disent être des grands utilisateurs d'écran et de réseaux sociaux tout particulièrement sont aussi des jeunes qui présentent beaucoup d'anxiété et de dépression en termes de symptômes. On peut pas nier le fait que peut-être que certains jeunes anxieux vont davantage se réfugier. Donc, c'est la poule ou l'œuf, c'est pas toujours évident à départager. Ceci étant dit, il y a quand même un bassin de littérature en dehors de ce que nous, on a fait, qui porte sur des études qu'on appelle longitudinales. Donc, on regarde des jeunes qui allaient bien, on compare selon leur niveau d'exposition aux écrans, puis on regarde comment ces jeunes-là évoluent au fil du temps. Et là, on voit que les grands utilisateurs ont tendance à davantage développer des symptômes anxieux et dépressifs au fil du temps.
Donc là, il y a les jeunes caquistes qui arrivent avec cette proposition, soit d'exiger là, qu'un jeune ait 16 ans avant de pouvoir tomber dans les TikTok, dans les Snapchat, dans les Instagram. D'abord, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition?
Mais je trouve qu'il y a une évolution, certes, au niveau du discours de la CAQ. Hein, on se rappellera qu'il y a quelques mois, on entendait plutôt des discours qui semblaient assez rassurants, même à chercher un peu à minimiser la problématique. Et là, on va jusqu'à penser à interdire les réseaux sociaux chez les moins de 16 ans. Donc, en tout cas, on peut pas dire qu'il n'y a pas une évolution.
Mais docteur Généreux, je veux juste souligner une affaire, un bémol. Ce sont les jeunes caquistes qui proposent ça. Ouais. Ça n'a pas été relayé encore par les députés, ni par le chef qui, il y a quelque temps, là, se moquait un peu de la position similaire de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui, ben c'est ça. J'ai hâte de voir. Ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau de leur conseil, il va y avoir quand même un panel sur les médias sociaux et les impacts sur le bien-être des jeunes. Donc, quand on sent un mouvement, on sent une ouverture à la discussion, mais moi, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Je ne suis pas plus au courant que ça. Mais quand même, le simple fait qu'on le soulève, moi, je pense que c'est intéressant. Je dis pas que c'est pas évident de dire est-ce qu'on est pour ou contre comme ça. Chose certaine, si on en fait une phrase un peu slogan, on va interdire les réseaux sociaux chez les moins de 16 ans, mais qu'on ne fait rien d'autre par ailleurs pour essayer d'offrir des alternatives qui sont fermes et sans écran. Dans ma tête, on ne peut pas retirer à des jeunes à qui on a offert ça sur un plateau d'argent là, depuis plusieurs années, que leur dire, là, on vous le retire. Imaginez, par exemple, un jeune de 14-15 ans qui est rendu assez habitué, qui est habitué socialisé de passer ses loisirs en ligne. Et là, on le retire. Puis en plus, on n'a pas d'alternative qui peuvent être le fun en termes de loisirs, de sport dans le monde réel. On vient vraiment créer quelque chose, un monde. Donc, je pense qu'on a cette responsabilité-là d'avoir une vision quand même plus globale, un plan d'action avec plusieurs éléments plutôt qu'une loi quand même assez, on va dire, coup de poing.
Il y a le Surgeon General des États-Unis qui est une sorte de chef de la santé publique gouvernementale là, qui, lui, a fait une sortie il y a quelques mois et il a dit, écoutez, 13 ans, c'est beaucoup trop jeune. En France, il y a des réflexions, je pense qu'ils sont, la réflexion, c'est 15 ans, ça devrait être l'âge. En Floride, il y a une loi, je pense que là-bas, c'était 15 ans aussi, si je me trompe pas. Est-ce que c'est un faux débat de faire le débat sur la prémisse de l'âge d'accès, l'âge qu'il faut avoir pour aller dans les réseaux sociaux?
Ben, en fait, c'est que la science n'est pas encore très exacte là-dessus. Est-ce que, en ce moment, la façon dont sont configurées les plateformes de réseaux sociaux, est-ce que c'est adapté pour les jeunes de 13, 14, 15 ans? Moi, je crois que non. En ce moment, c'est épouvantable. En fait, on laisse les réseaux sociaux avoir complètement un marché libre avec des stratégies qui fidélisent nos jeunes. C'est absolument pas adapté dans le contexte où leur cerveau est en plein développement. Puis on est en train d'induire une forme de dépendance. Ben, pas qu'ils sont dépendants au sens comme une substance, mais on surstimule le circuit de la récompense. On les rend hyper fragiles et sensibles à l'opinion par les pairs, à la comparaison sociale. Donc, ça vient créer toutes sortes de vices au niveau du développement du cerveau qui sont pas souhaitables à cet âge-là. Donc, ça, c'est pas correct. Est-ce qu'il faut pour autant tout interdire versus essayer d'amener les réseaux sociaux à être plus éthiques puis avoir des stratégies qui sont un peu plus modérées ou adaptées au développement en fonction des différents stades de l'âge? Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais prioriser, mais encore faut-il avoir une grande volonté politique pour aller là.
Je veux qu'on en profite pour parler des écrans et des outils numériques au sens large dans les écoles. Parce que, bon, il y a la sphère privée, et ça, on se comprend, là, ça va être difficile pour les États de légiférer de A à Z. Mais les États, comme le Québec, contrôlent quand même ce qui se passe en classe. Et j'aimerais que vous me parliez d'une étude de l'Institut national de santé publique qui a fait une synthèse, qui a étudié des études et qui en est venue à une certaine conclusion sur l'utilité du numérique sur les jeunes qui sont à l'école.
Oui, c'est absolument fascinant parce que, bon, l'Institut national de santé publique a fait cette revue, comme vous dites, des différentes études jusqu'à présent, donc à jour. Et en gros, il y a 4 constats qui sont sortis de cette recension-là qui date de février 2024, donc c'est très récent. Avoir utilisé un appareil numérique à des fins personnelles en classe, c'est pas une bonne idée, évidemment, ça nuit à l'apprentissage, à la cognition. Avoir même un appareil fermé en classe avec soi, c'est pas bon non plus. La lecture numérique et la prise de notes numérique, ben ça non plus, ça semble pas associé avec aucun bénéfice, et même c'est associé avec une diminution de la compréhension de texte, de la mémorisation, de l'apprentissage de manière plus large. Donc là, ça, c'est quand même assez frappant parce qu'on, personnellement, avant de lire ça, moi, je pensais qu'on luttait un peu dans un dilemme entre l'avantage numérique pour l'apprentissage scolaire, mais le désavantage pour la santé mentale. Mais là, ce que le rapport vient dire, c'est que finalement, il n'y a peut-être même pas tant d'avantages pour l'apprentissage scolaire. En tout cas, de manière générale, ça mérite certainement une réflexion de ce côté-là.
C'est quand même extraordinaire qu'un organe gouvernemental comme ça, l'INSPQ, fasse une étude et qui ait à peu près eu un son de criquet du côté du ministère de l'Éducation. J'ai pas entendu Bernard Drinville en parler. J'ai pas entendu le ministère prendre acte de ça et dire on va lancer une réflexion sur la place du numérique. Silence radio.
Ah oui, puis j'ai vu aussi des lettres d'opinion dans certains grands médias, là, tu sais, qui, comme quoi, des spécialistes en numérique là, qui s'opposaient un peu aux conclusions de ce rapport-là. Là, j'ai vu ça récemment. Bon, c'est des gens qui étaient experts ou qui ont des compagnies du monde du numérique qui essaient d'appliquer en milieu scolaire. Donc, en partant, il y avait une certaine perspective qui est différente de celle de la santé du bien-être et de l'apprentissage. Mais bref, oui, ça soulève beaucoup de questionnements dans la population, mais on n'a pas vu beaucoup de corps politiques ou de ministères là, s'imprégner ces données-là. Moi aussi, quand même, à ma grande surprise.
Vous, comment vous gérez ça, les écrans à la maison avec vos jeunes?
Moi, je suis vraiment chanceuse parce que la professeure de mon fils, quand je suis allée, tout le monde en parle pour parler des écrans, elle m'a invitée, je suis allée dans la classe de mon fils, donc c'est nous, on est dans un petit village, et puis finalement, j'ai eu la chance de parler à tous ses amis. Je leur ai dit, pourquoi vous profitez pas de l'infrastructure que vous avez, de l'école, passez votre temps ensemble dans le monde réel. Puis j'ai vraiment axé là-dessus plutôt que sur le « vous devriez pas faire ci, vous devriez pas faire ça », et ça a tellement bien marché. Depuis ce temps-là, mon fils invite ses amis à venir faire les devoirs à la maison. Ils donnent rendez-vous au terrain de soccer, basket. Puis je dis, c'était pas le cas avant. Ils m'ont même dit, on a le droit, on peut faire ça. Je dis, certains, vous pouvez. On vous encourage à le faire. Donc oui, moi, ça me donne espoir que c'est possible. Mais je réitère que d'être dans une approche plus positive puis de montrer tout l'univers des possibles qu'on a plutôt que dans la pure restriction. J'ai vraiment l'impression qu'on a plus de chances d'arriver à nos fins. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des lois ou certains règlements plus contraignants, mais il faut que ça vienne aussi avec des ajouts et des belles opportunités pour nos jeunes.
Docteur Généreux, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir pris le temps.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Docteur Mélissa Généreux, spécialiste en santé publique.
FM 93. Nous avons le plaisir de vous inviter à assister au dévoilement de la nouvelle image de CFIX FM 93 et d'un tout nouveau service qui aura lieu le 31 mai à l'Union Pacifique avec souper et soirée dansante. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. FM 93, vous allez en entendre parler. Réservez dès maintenant votre place pour souper avec l'équipe de CFIX au restaurant Union Pacifique ou venez passer une soirée mémorable avec nous. Le dévoilement de la nouvelle image et de ce nouveau service va s'effectuer à 20h.
T'as besoin de pieux vissés? T'appelles Pieux Vistec. Pour ton patio, cabanon, verrière, ajout à ta maison, les fondations de ton chalet, Pieux Vistec. 20 ans d'expérience avec service professionnel et impeccable. KRTB Rimouski, Pieux Vistec, 418-868-6959.
Vous écoutez CFIX 93.3, qui diffuse également à Rivière-du-Loup, à la fréquence 103.1.
Voici vos nouvelles du 16 mai 2024. On connaît maintenant l'identité de l'homme d'affaires intéressé à acheter le club de golf Bic. Les quelques 300 actionnaires du club étudient aujourd'hui l'offre d'achat d'Éric Fournier, un Rimouskois d'origine qui a été associé à la réputée entreprise événementielle Moment Factory. Celle-ci a notamment travaillé pour Sony et pour les entreprises Disney. Selon Radio-Canada, M. Fournier a vendu ses parts de Moment Factory après y avoir été associé pendant 17 ans. Les actionnaires du club de golf doivent se prononcer sur l'offre d'achat déposée par M. Fournier aujourd'hui. Le conseil d'administration fournira plus de détails demain. Le Centre intégré santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent lance une offensive sans précédent dans la recherche de partenaires pour ouvrir de nouvelles places en résidence pour personnes aînées. Un appel d'intérêt de 130 places en ressources intermédiaires pour des personnes avec des besoins particuliers est lancé. La demande est grandissante. 4 MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent sont celles où les besoins sont les plus importants. Un premier appel d'offres a été réalisé pour 60 places dans la Missis, la Matanie et la Matapédia, soit 20 places pour des aînés en perte d'autonomie et 40 pour des personnes avec des troubles cognitifs. Les coupures de service annoncées de Desjardins à Sainte-Luce et à Saint-Gabriel, entre autres, font réagir à son tour le député de Matane-Matapédia. Pascal Bérubé réitère que par ses décisions, Desjardins envoie un mauvais signal à notre région. Il rappelle que lors de la dernière vague de regroupement et de fermeture, Desjardins disait compenser ceux-ci par le maintien de points de service comme celui de Saint-Gabriel. Il se demande pourquoi cet engagement ne tient plus. Il ajoute que ces nouvelles annonces de fermeture envoient un message de désengagement de Desjardins envers la région. Certains citoyens devront parcourir près de 90 km pour avoir accès à des services. Et finalement, la trentaine de pêcheurs de crabes des neiges de la zone 17 sont satisfaits de la saison de pêche entamée fin mars. Plusieurs d'entre eux ont atteint leur quota et ont même déjà retiré leur casier hors des eaux du Saint-Laurent. Quelques autres sont en bonne voie d'atteindre leur ratio de cueillette et le feront dans les prochains jours. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
Les faits, les vrais. CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. Art et spectacle. Le Québec
maintenant. Qui la première corps-cœur de Québécois. Ça me glisse sur ma peau, des poignards dans le dos. J'ai plus peur de rien, c'est pas mon premier rodeo. J'suis un peu patron, en heels ou en veston. J'suis la CEO, baby, tes émotions.
C'est qui la première cowgirl des Québécois? C'est une chanson de Laurence Nerbonne qui s'intitule Cowgirl. Et l'autre voix qui est sur cette chanson, c'est celle de Mitsou Gélina qui est en studio. Salut Mitsou.
Bonjour jeune homme.
Mitsou, j'ai pensé t'inviter quand j'ai vu un papier formidable, comme beaucoup de ces papiers, de Dominique Tardif dans la presse qui te consacrait un long article. Où, bon, on fait la rétrospective de ta carrière, mais on parle aussi du fait que il y a plusieurs artistes, pas nécessairement émergents, mais tu sais, c'est des jeunes artistes comme Laurence Nerbonne, qui te vouent un respect sans borne et qui valorisent ta musique, qui n'en rit pas. Et en plus, c'est le 35 ans de la sortie d'El Mundo qui t'a propulsé avec Bye Bye Mon Cowboy notamment. Et je me suis dit, je vais l'inviter. Ça te fait-tu un petit velours d'être respecté comme chanteuse toutes ces années après?
Ben, ça me fait plaisir. Premièrement, je dois dire merci à Dominique Tardif qui a été, tu sais, dans le milieu, souvent, on va faire des demandes à des journalistes parce qu'on fait une tournée, par exemple, médiatique. Et puis, c'est pas le cas avec Dominique. C'est arrivé, cet appel.
C'est sa demande en marge de toute promo.
Exactement. Et nous, ce que ça a fait, c'est qu'il s'intéressait à mon sujet, à ce qu'on a fait durant les derniers mois aussi, parce que tu places des pions, tu fais des actions, tu as l'impression que tu as une direction, mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui le mentionne comme ce que Dominique a fait, ben c'est entre toi puis tes amis avec qui tu travailles, tu sais, puis avec Suzanne McKenna, entre autres, qui a travaillé avec toi, oui, au Journal de Montréal, qui s'occupe de moi maintenant, et Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir jaser avec lui qui a été petit comme vous, qui a peut-être aimé ma musique, mais qui ressentait qu'il fallait faire quelque chose de plus global maintenant, pas seulement pour moi, j'ai l'impression, parce que tu me demandes comment ça file, puis ce que j'ai envie de te répondre, c'est que je pense que ça filait bien pour bien du monde, parce que en parlant de moi, une